Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du grain à moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. C'était il y a quelques mois dans un magazine de débat d'une radio concurrente et néanmoins amie. Le téléphone sonne sur France Inter. Un auditeur dont la question avait été prise par le Standard faisait cette mise en garde. « Vous prenez des risques à parler des personnes âgées », disait-il au présentateur. « Cela va faire chuter votre audience ». Le sujet était effectivement consacré au grand âge et aux défis posés par l'arrivée des papis et des mamies boomers à un âge où le risque de perte d'autonomie est élevé. Ça n'intéresse personne, insistait l'auditeur, et peut-être avait-il raison. La semaine dernière, dans une maison de retraite située à Foucherand, dans le Jura, une grève d'une ampleur inédite, 117 jours, un record en France, prenait fin dans une indifférence quasi générale. Un reportage du journal Le Monde et la visite de deux députés avaient tout de même permis au personnel de témoigner de leurs conditions de travail et des conséquences sur les résidents. Des cadences infernales obligeant à réduire le temps des soins. La douche hebdomadaire, c'est rare qu'on la tienne, confessait l'une des grévistes. Or, la situation de cet EHPAD serait loin d'être une exception. Un manque de moyens structurels, dénoncent les acteurs, qui révèle peut-être un problème plus général de prise en charge de nos seniors en France. Alors, vieillissement et dépendance, sommes-nous dans le déni ? Eh bien, c'est la question dont nous allons débattre ce soir. Et pour cela, trois invités pour en discuter. Notre première invitée est au téléphone. Il s'agit de Annie de Vivi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du site hvillage.com. Hvillage.com, c'est un site d'information dédié aux seniors et aux aidants, qui est donc spécialisé sur les questions de vieillissement. Ça résume bien la ligne éditoriale ?
Oui, tout à fait. On espère aider à vieillir debout, oui.
Vieillir debout. Oui. À vos côtés pour discuter, alors pas exactement à vos côtés puisque lui il est en studio, Pascal Chanvert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'ADEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées, donc qui regroupe entre autres des directeurs d'établissements pour personnes âgées.
Mais, pas service, seulement. Et de services à domicile et de coordination.
Et troisième invité. Ah oui, je précise aussi que vous êtes auteur de Prendre soin de nos aînés, c'est déjà Prendre soin de nous, paru aux éditions Carnet Nord en 2012. Et notre troisième invité, il s'agit de Serge Guérin. Bonsoir.
Mes hommages du soir.
Vous êtes sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement. Vous dirigez le master directeur des établissements de santé à l'INSEC. Et vous êtes auteur, vous, de « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» aux éditions Kalman-Lévy. C'était en 2014.
Alors, 2017.
2017, pardon. très bien. Pour revenir sur cette actualité donc, que je citais en introduction, cette grève dans l'établissement, est-ce qu'il s'agit pour vous d'un cas on va dire symptomatique, en tout cas révélateur d'une situation plus générale en France, à savoir donc cette situation de manque de moyens, de sous-effectifs qui entraîne une dégradation des conditions de travail et à terme aussi des risques de mauvais traitements sur les personnes âgées. Pascal Chanvert.
Clairement oui, cette grève elle est extrêmement révélatrice de ce qui se passe dans tous les établissements en France, mais aussi dans les services à domicile, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées. C'est un nombre de professionnels insuffisant, un temps passé auprès des personnes âgées insuffisant, et au fond, tout cela révèle un grand retard de notre pays par rapport à ses voisins européens comparables.
Annie de Vivi, vous partagez ce constat ?
Oui, je le partage. Je partage le constat des professionnels, comme Pascal, qui sont sur le terrain tous les jours. Et ce que je constate aussi, c'est qu'on n'a pas réfléchi collectivement, enfin individuellement et collectivement, à ce qu'on voulait pour notre propre vieillissement, surtout quand on a des handicaps lourds ou qu'on a des maladies neurodégénératives. On n'y a pas suffisamment réfléchi, on ne travaille pas suffisamment individuellement dans les familles et sur les territoires. Et on confie en fait des personnes qui sont très lourdement handicapées à des professionnels sans vraiment y avoir participé de manière claire. Et donc on les laisse seuls face à des réalités qui sont très difficiles à vivre.
Pascal Guérin, vous suivez également ces questions depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une situation qui s'est dégradée ? Et si oui, à partir de quand on a commencé à avoir cette tension entre d'un côté des besoins grandissants ? et de l'autre, des moyens stables ou diminuants et qui arrivent à ce genre de situation où le personnel est obligé de se mettre en grève parce qu'ils ne sont plus assez nombreux pour assurer dignement les soins aux personnes âgées.
Alors peut-être faut-il être un tout petit peu plus nuancé en rappelant aussi qu'il y a eu énormément de progrès. Vivre en maison de retraite aujourd'hui, c'est pas vivre en maison de retraite il y a 20 ans. Alors évidemment, pour les gens qui sont aujourd'hui, ils disent « oui, mais je m'en fiche comment c'était il y a 20 ans ». N'empêche que, faut aussi, on sort aussi où il y a eu aussi des efforts de l'État, des collectivités, des personnels même. On a des personnels qui sont souvent mieux formés qu'hier, donc il y a aussi cette réalité-là. Et puis dans le même temps, il y a tout simplement il y a une augmentation du nombre de personnes concernées. Et puis surtout, les gens qui rentrent aujourd'hui dans les maisons de retraite médicalisées, comme il y a un peu une idéologie de « faut rester chez soi le plus longtemps possible ». On parle souvent de maintien à domicile. Le terme d'ailleurs est d'une violence incroyable. « Je te maintiens à domicile, tu vas pas sortir de chez toi ». Comme si, voilà, alors qu'on pourrait imaginer des choses plus souples. Je peux sortir à certains moments, je peux être chez moi parfois être en accueil de jour, que sais-je encore. Mais donc, on a été sur une culture comme ça extrêmement forte où il faut que les gens restent chez eux le plus longtemps possible. Clairement, parce que ça coûterait moins cher à la collectivité. Et puis à un moment donné, pour certains, ils ne peuvent plus. Maladie neurologique, grave handicap, que sais-je encore. Et donc, du coup, ils rentrent, mais très tard, au-delà de 85 ans, et souvent pour des périodes relativement courtes et dans des états assez difficiles. Donc, il est aussi plus difficile d'avoir un projet de vie avec ces personnes, de bien les accompagner. Donc, on est pris dans ces deux éléments-là. D'un côté, en effet, on n'a pas envie de se projeter, on n'a pas envie d'y réfléchir, et on est resté sur des logiques extrêmement comptables. Nombre de personnes, combien de personnes pour les accompagner, pour s'en occuper, point. Et puis avec aussi un discours très très négatif. On va parler de dépendance, on va parler de maintien à domicile, on va parler d'EHPAD avec des mots extrêmement violents, on va parler de placement, on va parler de lit. Alors que les professionnels, alors que l'ensemble de gens qui travaillent dans ce domaine-là vont parler d'accueil, vont parler d'accompagnement, vont essayer d'inventer des solutions. Mais c'est vrai que pour inventer ces solutions, il faut aussi d'argent, il faut aussi des moyens, il y en a insuffisamment, et il faut aussi du personnel qui est à la fois valorisé, qui est à la fois qualifié, et dont les revenus aussi sont corrects. Finalement, on demande à des gens souvent très fragilisés de s'occuper de personnes elles-mêmes très fragilisées.
Alors les EHPAD, je rappelle, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD c'est une maison de retraite.
Oui, je proposerais, si vous en êtes d'accord, que ce soir on n'utilise pas le terme de dépendant, parce que Serge Guérin a bien raison de le dire. Le terme de dépendant, c'est une façon de stigmatiser les personnes âgées qui ont besoin d'aide, c'est une façon de les renvoyer à un statut, et au fond un statut qui les déshumanise complètement. On pourra développer si vous le voulez, mais tout cela participe d'un climat d'agisme. L'agisme, c'est une discrimination, comme le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, à ceci près qu'on repère très bien les discriminations que j'ai évoqué, on ne repère pas l'agisme parce qu'au fond, dans la société française, tout le monde est agiste. Quand on n'a pas vu un ami depuis 5 ans, il est de bon ton de lui dire « tu n'as pas vieilli ». Et c'est ça qui fait que cette dévalorisation que nous avons en permanence sur notre propre vieillissement, que nous reportons donc sur le vieillissement des plus âgés, cette dévalorisation, elle fait que la question de l'aide aux personnes âgées, elle n'est jamais bien traitée. Et surtout, elle fait que nous-mêmes, nous ne nous traitons pas bien en dévalorisant notre vieillissement. Ce qu'il faudrait, c'est avancer sur la lutte contre cette discrimination, faire en sorte, pour le dire positivement, que le vieillissement, ce sont des pertes. On voit moins bien, on court moins vite à partir d'une quarantaine d'années, c'est pas douteux, mais que ce sont des gains et que ces gains, ils peuvent ne jamais s'arrêter, même si par ailleurs, on a des handicaps. Si on dit ça en positif, pour tout le monde, la société ira mieux. Et du coup, la société traitera aussi beaucoup mieux ceux qui sont les symboles du vieillissement de tout le monde, c'est-à-dire les plus vieux d'entre nous.
Sur cette question d'agisme, donc, qui reprend un peu le vocabulaire, une comparaison avec racisme, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une exclusion, d'une mise à l'écart volontaire de la société vis-à-vis de ses seniors, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une espèce de déni, d'aveuglement, ou de choses qu'on écarte, mais pas une exclusion volontaire quand même ?
C'est les deux. C'est-à-dire que on peut prendre les comparaisons avec toute forme de discrimination, avec le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Il y a toutes les échelles. Il y a ceux qui sont ouvertement anti-vieux et qui vous expliquent que les vieux ont trop de pouvoir. Comme il y a quelques années en France où on disait que les juifs et les francs-maçons avaient tout le pouvoir. Vous voyez, il y a ce côté complotiste des choses. Il peut y avoir des comportements extrêmement dévalorisants collectivement ou individuellement à l'égard de personnes très âgées, qu'on va par exemple infantiliser, comme on a pu en d'autres temps infantiliser les femmes en se demandant si elles avaient une âme, ou comme on a pu considérer que les femmes ne devaient pas, dans le droit civil, avoir le même statut que les hommes. Et puis, il peut y avoir des choses beaucoup plus subtiles, du style, ben, évidemment qu'il peut pas, compte tenu qu'il est plus vieux que nous, évidemment qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle ne peut pas comprendre, compte tenu qu'elle est plus âgée. Avec quelque chose qui peut être assez protecteur, mais qui aussi révèle une forme de dévalorisation de l'autre. Vous savez, récemment, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, disait, la question de l'âgisme devient au niveau mondial aussi prégnante que la question du sexisme ou du racisme.
Annie de Vivi, pour compléter, est-ce que vous avez l'impression aussi que donc ce phénomène, donc l'âgisme, est-ce que pour vous il est plus fort que sur d'autres problématiques sociales, parce qu'on pourrait très bien aussi dire la question du mal logement, la question de la pauvreté, ce sont aussi des sujets sociaux qu'on n'a pas envie de voir, qu'on met de côté, ce sont aussi des personnes exclues. Est-ce que les personnes âgées et surtout les personnes en perte d'autonomie sont à vos yeux davantage exclus que les autres?
En tout cas, je pense pas qu'on ait réfléchi en fait très concrètement à cette révolution de la longévité. Qu'est-ce qui se passe? En fait, nous avons vécu et nous avons en tête une société qui fonctionne avec trois générations dans nos têtes. Les enfants, les adultes et les vieux qui vont mourir assez vite. Or, petit à petit, il y en a eu quatre, et puis maintenant, on est même cinq générations les unes à côté des autres. Et ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi à la façon dont nous allions tous vivre, toutes ces générations les unes à côté des autres, dans les quartiers, dans les villages, et on n'a pas réfléchi à la façon dont nous allions tous être utiles les uns pour les autres, quelle place nous allions avoir. Il est impossible pour qui que ce soit d'être une charge, de vivre en se sentant une charge et uniquement une charge pour ses pairs. Donc on est bien obligé de se dire qu'il faut qu'on revoie le mode de fonctionnement social, il faut qu'on s'interroge sur la façon dont nous allons concevoir ce cycle de la vie. C'est vrai que dernière partie de la vie est peut-être un peu compliquée parce que elle va être associée sûrement à des pertes, à des manques, mais aussi à d'autres ouvertures, à d'autres capacités, d'autres types de création, d'autres types de capacités à monter des liens ou des projets. Et cette partie-là de la vie aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment réfléchie. Donc nous allons, on le voit bien aujourd'hui, on travaille tous là dans des approches comme le label Ville Amie des Aînés qui vient de l'OMS notamment, parce que on se rend bien compte que des villes qui vont réfléchir comme elles réfléchissent au travail, comme elles réfléchissent à l'environnement, comme elles réfléchissent au bien-être et à la santé au travail, comme elles réfléchissent aux âges de la vie, eh bien, nous allons avoir à nous poser sur la façon dont nous accueillons les enfants, sur la façon dont nous accueillons les adultes et sur la façon dont nous accueillons toutes les personnes qui ont des évolutions dans leur vie, dans leur mode de transport, de type de handicap, etc. La dernière partie de la vie, si on ne s'en occupe pas, c'est Bernadette Pujalon qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est anthropologue, qui le dit souvent, le vieux, à quoi ça sert un vieux? Un vieux, ça sert à montrer simplement que la vie est longue. Le vieux sert à nous montrer qu'il est tout à fait possible d'avoir 100 ans, la preuve. Donc qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on vit avec cette longévité en collaboration avec les autres générations, sans qu'il n'y ait justement, comme le titre Serge dans son dernier livre, une guerre de générations. C'est positif de se poser la question parce que si on répond à quoi ça sert un vieux, avec des réponses de type ben, un vieux c'est celui qui nous montre l'avenir, c'est celui qui nous montre la longueur de la vie, ben on va peut-être mieux se poser et faire en sorte que si la dernière partie de la vie est bien accompagnée, on pourra peut-être d'autant plus facilement expliquer aux jeunes pourquoi il faut s'y investir.
Alors justement, très concrètement, sur la manière dont on organise cette dernière partie de la longévité humaine, si on peut dire, vous disiez tout à l'heure, Serge Guérin, que pendant de longues années, et encore aujourd'hui, la société globalement a fait le choix de mettre l'accent sur donc le maintien à domicile, qu'on va essayer de mettre entre guillemets, puisqu'on a entendu que vous n'aimiez pas ce terme. Néanmoins, on peut y voir quelque chose peut-être aussi de positif, de dire on permet à la personne de rester auprès de ses proches, dans un univers qu'elle connaît, avec ses affaires, etc. Pourquoi est-ce que ce serait un mauvais choix de dire on va plutôt essayer de médicaliser la maison plutôt que d'envoyer quelqu'un dans un centre médicalisé?
Alors, d'abord, rappelons quand même une chose, c'est que la majeure partie des personnes qui sont âgées sont autonomes et en bonne forme.
Oui, là, on va essayer de parler de la frange des personnes âgées qui est en perte d'autonomie.
Absolument, mais ça reste une minorité.
20% chez les plus de 80 ans, pas plus.
Voilà. Et c'est 7% pour les plus de 60 ans. C'est-à-dire que vieillir, c'est pas être malade. On associe souvent les deux, quoi. Il y a un côté, et d'ailleurs, vieillir, c'est être malade, et donc ça coûte cher d'être malade. Donc, vous savez, c'est aussi des gens qui finissent en disant, on sait bien que c'est la dernière année de vie qui coûte. Sous-entendu, il suffirait de la supprimer. Et ce qui est faux, parce qu'il faudrait aussi supprimer l'avant-dernière, et puis sans doute qu'il faudrait aussi supprimer la première année, parce qu'elle est très chère la première année de vie, et puis si on supprimait en plus tous les malades, en effet, la sécurité sociale serait extrêmement bénéficiaire.
Il resterait.
Mais voilà, c'est un petit peu ça le sujet. Deuxième élément, avec raison, on a parlé beaucoup de longévité. Parce que quand on parle de vieillissement, le vieux, c'est toujours l'autre. C'est jamais moi. Y compris pour des gens d'ailleurs très âgés. On s'amuse tous en se disant, on discute avec des gens très âgés et qui vont parler du vieux, ça sera quelqu'un d'autre. Un photographe récemment me disait, je suis allé photographier un centenaire dans une maison de retraite, j'ai photographié une personne, et il a dit, mais non, moi je suis un jeune. Il avait 103 ans, mais il y avait une autre personne de 107 ans. Vous voyez, donc on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Donc, quand on parle de longévité, on intègre tout le monde. Je nais et déjà la problématique de ma longévité va se poser. On prend d'ailleurs les centenaires, c'est un chiffre, c'est formidable. En 1950, il y avait 350 centenaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 21 000. Demain, selon l'INSEE, il y en a entre 250 000 et 550 000.
En France,
oui, oui. 350 en France, 21 000. Demain, enfin 2070, entre 250 000 et 550 000. Donc même être centenaire sera, je dis pas banal, mais presque. Et donc quand vous naissez, cette problématique-là se pose. Je dirige un master dans une école de commerce. Un jour, je vois, il y avait une porte ouverte avec des parents qui viennent, assez solide et tout ça, et puis il y avait le fiston derrière, un peu comme ça, et le père me dit, mon fils, il voulait dire mon abruti de fils, a raté son bac, il a perdu un an et tout ça. Et je dis au monsieur, vous inquiétez pas, vous savez, il va travailler au moins jusqu'à 75 ans, donc un an de plus, ça va rien changer. Donc du coup, ça a permis à tout le monde de se détendre. On va travailler plus longtemps, on va avoir des vies différentes, voilà. Et donc, il faut se projeter. Donc une politique de la longévité, c'est pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que l'enjeu c'est de penser aux âges plutôt que de penser à des normes d'âge. Vous savez, très longtemps on disait c'est pas encore ton âge, et puis d'un seul coup on disait c'est plus de ton âge. Mais ça dépend des personnes. Les gens, c'est pas encore ton âge est plus long ou plus court, et d'autres c'est encore de ton âge. Alors, donc c'est comment on pense l'autonomie des personnes et comment on pense avec elles. Il faut pas penser pour les personnes, le maintien à domicile. On va penser pour les gens, ils seront mieux dans cette situation. Mais demandons-leur, voyons avec elles. À certains moments, c'est ça qui est mieux. À d'autres moments, il y a d'autres solutions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les personnes âgées elles-mêmes inventent des solutions. Soutenues par les mutuelles, parfois. Soutenues par des villes. Soutenues par des organismes. Soutenues parfois par des fédérations, par des entreprises d'habitat. Que sais-je encore, par le monde HLM. Enfin, il y a plein d'acteurs. Et donc, la question, c'est comment ensemble. Et en effet, comment ensemble, sur un territoire, parce que vieillir au fin fond de la Corrèze, c'est pas pareil que vieillir au centre de telle ou telle ville. Vieillir avec seulement le minimum vieillesse autour de 800 euros, c'est pas pareil que vieillir avec une retraite convenable. Enfin voilà, selon vieillir en ayant encore parfois ses parents. On a aujourd'hui deux générations à la retraite. Parfois même trois si les gens ont travaillé dans des entreprises parapubliques. Donc c'est pas pareil si j'ai encore mes parents ou si j'ai pas mes parents. C'est pas pareil si je suis en couple ou si je suis pas en couple. C'est pas pareil si j'ai des enfants ou des petits-enfants.
Alors pour revenir quand même, même si on peut effectivement le déconnecter d'une question d'âge et de normes trop strictes, mais pour revenir quand même sur cette frange de la population qui souffre à un moment donné d'une perte d'autonomie et qui va avoir besoin de solliciter la collectivité, d'abord ses proches, puis la collectivité pour faire face à cette perte d'autonomie. Est-ce que donc ce qu'on appelle les EHPAD sont...
Il n'y a pas de perte d'autonomie. Moi, je ne crois pas à la perte d'autonomie. C'est, là encore, c'est des mots qui nous piègent.
Et une personne
ces
qui
gens-là,
ne peut plus
ils sont dépendants.
Assurer au quotidien
alors, on a dit, faut
des,
pas qu'on
soins,
dise,
des
faut
gestes
pas qu'on
de vie
utilise,
essentiels.
Il ne faut pas qu'on utilise dépendants. Alors, on va dire qu'ils sont en perte d'autonomie. Enfin, écoutez, moi,
quel terme il faut utiliser, Pascal Chambert?
Mais parlons de personnes âgées fragilisées, parlons de personnes âgées handicapées. Moi, a priori, on pourrait penser que je suis autonome. Il suffit de m'enlever mes responsabilités associatives, la femme que j'aime, mes enfants, mes copains, mes copines et mon boulot, vous allez voir à quel point j'étais extrêmement dépendant. Simplement, à partir de ces différentes dépendances, je vais créer de l'autonomie. Mais quand on a 90 ans, Et même si on est dans un fauteuil roulant, et même si on est handicapé, et même si on a une maladie d'Alzheimer, on est toujours capable d'avoir des marges d'autonomie. Simplement, les marges d'autonomie, mes marges d'autonomie quand j'aurai 90 ans, seront sans doute pas les mêmes qu'aujourd'hui à 58, et elles ne sont pas les mêmes que quand j'avais 38 ou 28 ans. Mais parlons d'autonomie, et je ne vous fais pas de reproche à vous, parce que vous utilisez les mots de la société, et c'est normal. Simplement, je pense que nous sommes ici pour réinterroger aussi les mots de la société, parce qu'en réinterrogeant les mots, on va réinterroger les comportements, nos comportements à nous. Serge a raison de dire que le vieux est toujours l'autre. Mieux j'accepte mon vieillissement, mieux je vais.
Bon, alors est-ce que...
Et oui. En acceptant notre comportement, en acceptant notre vieillissement, accepter le vieillissement des plus âgés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, nous sommes en démocratie. La plupart des ministres récents qui se sont succédés depuis une quinzaine d'années ont dit, s'agissant des personnes très âgées, il faut favoriser la liberté de choix. Et comme l'a dit Serge, je ne reviens pas sur tous les exemples qu'il a pris, il y a tellement de façons différentes d'être vieux qu'il y a autant de façons de répondre à ce qui est le mieux pour soi.
Alors, je ne sais plus quel terme employer exactement, peut-être.
Parlez de personnes fragilisées, si vous voulez.
Personne fragilisée. Annie de Vivi, pour revenir peut-être à l'actualité qui nous a donné envie de consacrer une émission à cette question. Donc voilà, c'est cette grève dans cette maison de retraite où les personnels ont dénoncé une situation où ils se sont sentis pris en étau sur, d'un côté, des besoins et eux, de leur côté, un manque de personnel. Pour revenir au cœur de ce sujet-là, comment se fait-il aujourd'hui que dans beaucoup d'établissements de ce type, le personnel devient en quelque sorte la variable d'ajustement d'un manque de moyens ?
Ben écoutez, c'est une réalité qui exaspère totalement, puisque aujourd'hui, les établissements sont dotés à partir de trois budgets, en fait. Vous avez un budget hébergement qui est financé par le résident et sa famille. Vous avez un budget dépendance qui est financé par le département et qui va financer une toute petite partie du personnel et des frais de type animation, surtout de l'incontinence, pardon. Et puis un troisième niveau de moyens, qui sont les moyens en soins, donc notamment le personnel de soins, qui lui dépend d'un autre forfait, qui est le forfait soins financé par l'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Pour essayer de réguler et d'essayer d'attribuer des moyens qui correspondent aux besoins des personnes, des grilles d'évaluation sont proposées aux établissements, sont demandées à ce que les établissements les remplissent, et en fonction du degré de perte d'autonomie de leurs résidents, ils ont plus ou moins de moyens. Sauf que, premièrement, ces grilles-là n'ont pas été suffisamment retravaillées pour pouvoir mieux accompagner l'autonomie, justement. C'est-à-dire que plus vous avez à la limite de personnes qui ont des besoins en soins, normalement plus vous êtes dotées, mais c'est pas forcément le cas. Et Pascal sera mieux passé que moi pour vous le dire, à quel point aujourd'hui les tensions budgétaires sont réelles, notamment d'un département à l'autre et notamment d'une structure d'établissement à l'autre. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des tarifs hébergement peut-être élevés, si vous n'avez pas un budget et une budgétisation de soins suffisante, vous n'aurez pas suffisamment de personnel, alors que les besoins d'aide sont réels. Nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est à quel point il y a un manque complet, réel, de taux d'encadrement. On a besoin de renforcer le niveau d'encadrement dans les établissements au regard de la perte d'autonomie, de la perte d'autonomie physique. Donc là, on va parler de handicap physique, mais aussi de handicap psychique sur les troubles de la désorientation, les troubles du comportement. Si vous n'avez pas suffisamment de personnel formé et compétent pour accompagner ces personnes-là, vous ne fonctionnez pas. On a besoin de se mettre d'accord tous sur un niveau d'encadrement minimum, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, de manière lissée sur l'ensemble du territoire. Et la deuxième chose dont on a besoin, c'est de se demander tous quel est le niveau de prendre soin que l'on veut. Parce que quand j'entends, et j'en ai beaucoup parlé avec les équipes des Opalines notamment, l'établissement qui était en grève. quand j'entends des équipes se sentir obligées de se dire bon à telle heure il faut qu'on ait terminé entre guillemets de faire des toilettes, je me dis qu'il y a un vrai besoin de s'interroger sur ce que l'on veut justement. Est-ce qu'on est là pour faire des toilettes ou est-ce qu'on est là pour accompagner la dernière partie de la vie de gens qui sont très fragilisés, très malades? Si on est là pour ça, il faut qu'on ait un nombre suffisant de personnes, mais il faut aussi qu'on puisse s'interroger sur l'organisation, sur les techniques de prise en soin, sur l'accompagnement que l'on propose, parce qu'on le voit bien, puisque moi en particulier je travaille avec des démarches non médicamenteuses, comme des démarches de type Montessori ou des démarches de type validation. Je travaille particulièrement avec l'humanitude.
On va revenir sur ce label que vous avez contribué à créer, Annie de Vivi. Et juste sur ce que vous disiez, c'est important. Une fois qu'on s'est mis d'accord, Pascal Chanvert, sur des critères, mettons par exemple dans un établissement, des critères satisfaisants de type de soins, de nombre de personnes dont on a besoin pour s'occuper des résidents, où est-ce qu'on va chercher ces moyens? C'est peut-être une question un peu naïve, mais aujourd'hui, qui paye, qui finance? Pascal Chanvert, ce sont des chiffres que vous donnez régulièrement à la presse. Le tarif moyen par mois dans un EHPAD, c'est 2 500 € par mois, 70 € par jour. Effectivement, on comprend bien que ce n'est pas suffisant pour payer à la fois le logement, les soins, l'aide à la vie quotidienne. Donc, qui compense? Où est-ce qu'on va chercher? Quel financement?
Ça fait partie du retard de la France sur le dossier. C'est que, un, il n'y a pas assez de professionnels en établissement et à domicile. Et même s'il y a des établissements et des services à domicile qui fonctionnent de façon correcte, voire très correcte, ils ne font pas tout ce qu'ils devraient faire pour les personnes âgées. Et de cela, les personnes âgées et les familles se rendent compte et témoignent de leur insatisfaction. Et puis il y a des établissements où ça se passe encore plus mal que d'autres. Et puis, au fond, deuxième élément du retard, c'est que aujourd'hui, on va dans un hôpital public ou dans une clinique privée, on paye à peu près entre 0 et 2% du coût de fonctionnement de la structure, parce que c'est l'assurance maladie et les mutuelles qui payent. On met son enfant dans une crèche, on paye à peu près 20% du coût de fonctionnement de la crèche. On va à la piscine, on paye 10% du coût de fonctionnement de la piscine. Une personne âgée va dans une maison de retraite, elle paye 60% du coût de fonctionnement de la maison de retraite. C'est-à-dire que l'assurance maladie et le département donnent au fond très peu de moyens. Donc les Français disent c'est effroyablement cher. Parce que 70 € par jour, c'est la moyenne, ça fait très peu. Essayer de trouver un hôtel-restaurant ou un club de vacances en France à 70 € par jour qui vous offre des draps propres, une chambre propre, ça c'est ce qu'on a dans tous les hôtels et on peut en avoir à 70 €. Mais en plus, le petit déjeuner, le déjeuner, une collation à 16 h, le dîner, des personnes qui vous aident à vous lever et des personnes qui vous offrent des loisirs, et ben ça en France, vous ne trouvez pas 70 €. Donc à la fois, les moyens sont trop faibles, mais d'un autre côté, 70 € par jour, ça fait 2 100 € par mois. Quand la retraite moyenne est à peu près de 1 000 €, on demande à des gens de payer le double de ce qu'ils gagnent. Donc évidemment, comment devons-nous sortir de cela? Eh bien, en mutualisant, en créant ce que Nicolas Sarkozy avait promis, ce que François Hollande avait promis, c'est-à-dire une prestation autonomie que malheureusement ni l'un ni l'autre n'ont mise en place et qu'il faudra bien qu'Emmanuel Macron mette en place. Nous espérons que ça ne sera pas son successeur. Il faut mettre en place une prestation autonomie qui va permettre d'augmenter le nombre de professionnels dans les établissements et dans les services à domicile. Parce qu'on dit toujours c'est merveilleux le domicile, mais après, quand on parle de ce qu'il faut faire, on oublie complètement les salariés qui travaillent à domicile, les aidants qui s'épuisent à domicile.
Donc les aidants, en général, ce sont les proches.
Et voilà. Petite parenthèse, les aidants sont toujours des aidantes. Ne nous racontons pas d'histoire, ce sont des femmes. Or, les femmes aujourd'hui, elles aspirent à autre chose que de s'occuper uniquement des enfants et des grands-parents. Donc, on oublie les professionnels du domicile, on oublie les aidants et on oublie les personnes qui vivent à domicile. Donc, du coup, au fond, on n'est bon ni en établissement ni à domicile. Ce qu'il faut faire, c'est avoir plus de personnel en établissement à domicile, faire en sorte que ça coûte moins cher, donc mettre en place une prestation autonomie, c'est tout à fait faisable. Le Conseil économique et social a, en 2011, fait des propositions, notamment en disant il faut mettre en place une petite taxe sur les successions. C'est tout à fait finançable. Il faut là-dessus qu'il y ait un vrai débat pour que les politiques avancent sur ce sujet.
Est-ce que cette prestation d'autonomie, ce serait donc sous la forme d'aide qui irait directement aux usagers qui ensuite payeraient les frais, les soins, etc. Ou est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi, comme vous l'avez suggéré en comparant avec les écoles, avec les piscines, etc., d'avoir les maisons de retraite qu'elles fonctionnent comme un service public, comme une école par exemple, c'est-à-dire on irait en maison de retraite comme on va à l'école et l'ensemble du coup est pris en charge par l'État au même titre qu'un autre service public. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable, Serge Guérin?
Tout est imaginable. La question, c'est d'abord la volonté de mettre de l'argent. Aujourd'hui, c'est à peu près 1% de la richesse nationale. Bon, la richesse nationale devant continuer d'augmenter, demain, finalement...
1%, c'est l'argent qu'on met aujourd'hui.
Oui, voilà, ça représente ça. Bon. Demain, sera peut-être 2%. Voilà. Mais vous voyez, ce n'est pas des sommes non plus astronomiques. C'est quelques dizaines de milliards. Et il faut rappeler que les gens... Par exemple, on parle d'employer plus de monde, mais ces personnes-là... Il me semble qu'il y a pas mal de chômage en France. Alors, ben, on peut se dire qu'un certain nombre de gens qui sont tout à fait en capacité, en étant formés, en étant accompagnés, en étant suivis et en ayant des propositions de vie professionnelle, par exemple, il y a un vivier énorme pour augmenter, par exemple, l'emploi dans le secteur. Et finalement, ça serait de l'argent plutôt qu'aller par Pôle emploi, ça serait de l'argent qui irait directement vers les personnes, qui elles-mêmes, du coup, d'ailleurs, consommeraient mieux et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est en plus, dans la dynamique économique, il y a des territoires...
Mais c'est des personnels qui seraient payés sur un budget de fonctionnement de l'État.
Donc de l'État, de collectivités, d'entreprises, enfin, après ça s'organise. C'est simplement comment on met de l'argent. Mais il faut d'abord se dire, ok, Pascal disait tout à l'heure, Nicolas Sarkozy s'était engagé, ainsi de suite. En 2007, les trois premiers candidats, enfin arrivés en tête, je ne porte pas le jugement sur la qualité, mais les trois premiers arrivés en tête, les trois s'étaient engagés sur l'organisation d'une protection sociale adaptée aux plus âgés. En 2017, le sujet n'a même pas été évoqué. Donc d'une certaine manière, alors que la question est de plus en plus prégnante, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « mais nous on sait pas, on s'inquiète demain financièrement, on sait pas comment on paiera notre propre perte d'autonomie », eh bien on n'en a pas parlé. Alors même que, d'une certaine façon, les gens de 85 ans d'aujourd'hui ne savaient pas qu'ils vivraient aussi longtemps. Donc on peut dire il y a 20 ans, les politiques ont souvent une difficulté parce que Pierre Mendès France n'est plus disponible, parce que Michel Rocard n'est plus là, parce que des gens comme ça qui étaient capables de se projeter dans l'avenir ne sont plus là. Et donc, on n'a pas réfléchi il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, les gens de 85 ans, ils sont là. Et les gens de 60 ans, ils voient bien qu'il y a leurs parents de 85 ans. Et les gens de 40 ans, ils voient bien que leurs grands-parents ont 85 ans. Donc ils se disent demain, dans 40 ans, ce sera moi. Donc, d'une certaine manière, même notre président de la République, à 39 ans, peut se dire, dans 40 ans, il sera peut-être concerné. Donc, de se dire que, en fin de compte, il faut s'en préoccuper. On peut comprendre qu'hier, on ne s'en préoccupait pas, parce que personne n'avait été capable de se dire, on va vivre aussi longtemps. Aujourd'hui, on le sait. On le sait, et pourtant, finalement, on fait rien. Alors que si on faisait, on pourrait faire aussi en termes de prévention, de faire des vraies politiques de prévention, ce qui fait que, en partie, on réduirait le problème, parce qu'en travaillant mieux sur l'activité physique adaptée, en travaillant mieux sur la nutrition, en essayant de lutter contre les positions, ainsi de suite, on sait que les gens seraient, pour partie, moins malades, moins abîmés, moins fragilisés demain. Donc on pourrait, ne serait-ce qu'en faisant des politiques de prévention, réduire la question. Sauf qu'il faut agir demain, et qu'on ne verra que après-demain le résultat de cette action. Donc c'est aussi cette capacité-là à se projeter pour l'intérêt général. Finalement, c'est une question d'intérêt général, et encore une fois, c'est pas une question pour les plus âgés. D'abord, c'est une question avec les plus âgés, et c'est pour et avec tout le monde. À 20 ans, je suis concerné parce que c'est mes grands-parents, mais parce que c'est moi aussi, finalement, dans pas si longtemps que ça. Donc si on pense ça, on pense en termes d'emploi, on pense en termes de dynamique, on pense en termes d'aménagement du territoire, on pense en termes de prévention, et du coup, on réfléchit aussi à des structures qui peuvent être parfois plus ouvertes, où après tout, dans un village, il y a une maison de retraite accueillante pour les plus âgés, pour des personnes fragilisées, mais qui peuvent aussi accueillir, par exemple, au moment du repas de midi, d'autres personnes qui viendraient déjeuner avec les premières. On peut imaginer que ces personnes-là puissent aussi utiliser les moyens pour faire l'activité physique. Que sais-je encore ? Et finalement, c'est aussi comment le grand vieillissement fait partie tout simplement de la vie, est ouvert sur la vie. Et du coup, je m'habitue aussi à y aller. Donc ça sera moins une rupture pour moi le jour où je devrais vraiment y aller. Je m'habitue aussi à échanger avec ces personnes. Je m'habitue aussi à me dire, mais ces gens-là, quand ils me parlent, c'est super intéressant. J'ai emmené mon enfant qui a découvert que le monsieur qui a 88 ans, quand il était petit, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'écran 16/9, il avait même pas le téléphone fixe, et les toilettes étaient au fond du jardin, et pourtant il se sentait pas du tout dans la misère, et il se plaint pas. et ben mon fiston, du coup, il se plaint beaucoup moins. Vous voyez, vous avez des choses comme ça aussi. C'est comment on invente une société de tous les âges, où justement, il n'y a pas de guerre des générations, il y a au contraire une coopération entre les générations, une transmission. Peut-être que notre pays, ce dont il a le plus besoin, c'est de rappeler ses racines, rappeler son passé pour mieux préparer son futur et valoriser cette notion de transmission.
On connaît tous autour de nous une personne âgée en perte d'autonomie ou une personne qui a des besoins d'accompagnement spécifique, un enfant handicapé, une personne qui a eu un accident, etc., etc. Le problème, c'est que les offres du marché, que ce soit les transports en commun, les taxis ou véhicules classiques, ne sont pas adaptées pour ça. Et les offres spécifiquement adaptées pour le transport de personnes à besoins spécifiques est en général très stigmatisante, où il y a écrit en gros dessus « je suis vieux ou je suis handicapé » et compliqué en termes d'accès parce qu'il faut réserver très longtemps à l'avance. Donc nous, on a voulu créer un service, Citizen Mobility, qui permet de pouvoir se déplacer comme tout le monde, avec un véhicule non stigmatisant, une berline comme tout le monde ou un van, de pouvoir réserver au dernier moment et de pouvoir bénéficier d'un partenaire chauffeur qui est habilité à me transporter par rapport à mes besoins spécifiques. Donc si j'ai de l'arthrose, un tiers des personnes de plus de 65 ans ont de l'arthrose au genou, ça fait mal, bah, le chauffeur est habilité, sait comment transporter la personne, l'accompagner à l'avant du véhicule pour son transport de porte à porte.
Alors c'était un clip de promotion Citizen Mobility, un exemple parmi tant d'autres de ces entreprises et startups qui se lancent dans l'élaboration, le développement de services.
Qu'on appelle la silver economy.
Exactement, ouais. La silver economy. Vous avez deviné la transition, Serge Guérin. Est-ce que justement, donc cette idée, la silver economy, silver qui évoque la couleur blanche des cheveux des personnes vieillissantes. Non, vous n'avez pas de cheveux, je le révèle. Donc... vous me détournez du sujet. Non, cette silver economy, comment est-ce qu'on peut comprendre l'intérêt du privé, des entreprises comme des start-up, de s'investir dans ce domaine-là, ou par ailleurs, et c'était le début de l'émission, on voit bien qu'il y a des situations de tension économique avec les familles qui se demandent comment elles vont payer des frais lourds qui arrive, quelle est la dimension rentable de la silver economy, Serge Guérin, rapidement, qu'on puisse aussi entendre Annie de Vivi.
Si on résume les choses, d'abord, la silver economy, elle existe depuis très longtemps. Les maisons de retraite, les services à la personne, c'est de la silver economy qui ne s'appelait pas silver economy. Et c'est là, d'ailleurs, où il y a le gros des emplois. Deuxième élément, la silver economy est d'une certaine façon la prise de conscience qu'il y a des besoins énormes de produits ou de services qui sont à mieux adaptés aux attentes de ces personnes-là, mais qu'il y a juste un petit sujet, c'est la rentabilité du marché. Comment on fait entre ces deux-là ? C'est-à-dire que les gens ne sont pas nécessairement en capacité, parfois même intellectuellement, parce qu'ils ne sont pas habitués à payer, ils n'ont pas envie de payer, ils ne comprennent pas pourquoi il faudra payer, et dans d'autres cas, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est comment on adapte en termes de réalité, d'objets qui servent réellement, qui répondent réellement, et comment en même temps, on adapte en termes de prix pour que ce soit accessible. Le terme accessible est beau, il y a l'accessibilité physique, psychologique, et il y a l'accessibilité économique. Tout l'enjeu de la silver economy, il est là. L'avantage de la silver economy, c'est qu'il a donné un coup de projecteur et d'une certaine manière, il a permis, c'est l'opportunisme, mais après tout, c'est bien aussi l'opportunisme. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait un marché. Simplement, il faut aussi qu'ils découvrent que derrière le marché, il y a des besoins, il y a des usages, il y a des êtres humains et certains ne sont pas simplement des tiroirs-caisses ambulants ou parfois déambulants. Donc, c'est comment on répond à cela, mais il y a des vraies réponses, il y a des vraies questions. Enfin, il faut d'abord poser la question et ensuite, on peut en effet trouver des réponses qui sont parfois extrêmement intéressantes, qui dans certains cas, grâce à certaines technologies, permettent même d'économiser énormément parce que parfois, pour aller voir le médecin, en fin de compte, le coût majeur, c'est pas la visite médicale, c'est le coût de transport. Et quand même, il est normal que ce soit la visite médicale qui coûte, parce que c'est là où il y a de l'expertise, plutôt que le transport qui devrait être quand même le moins onéreux possible. Donc voilà, on peut aussi inventer des choses qui soient moins onéreuses pour la collectivité et qui répondent mieux aux besoins des personnes.
Annie de Vivi, quelques regards vous avez, vous, sur la question de la silver economy. Qui va payer, par exemple, pour qu'une personne âgée puisse avoir accès à un transport adapté ?
C'est tout l'enjeu en effet d'une aide à l'autonomie, hein, comme disait Pascal tout à l'heure. Sans une aide mutualisée, ça va être très compliqué. Il y a un deuxième sujet, c'est la confiance. La confiance qu'on va avoir, on est face à des personnes, on accompagne des personnes fragilisées, des personnes vulnérables. Donc il faut pouvoir avoir confiance dans les services que l'on nous rend et avoir confiance dans les professionnels qui doivent être renforcés et accompagnés. D'où l'histoire de normalisation, de certification ou de label. L'histoire de labellisation, c'est la possibilité de retirer des labels. Quand on en donne, on peut aussi les retirer. Donc l'enjeu, c'est d'aider des personnes vulnérables par des professionnels de bon niveau, avec des compétences adaptées un niveau de confiance suffisant.
Vous avez créé un label Humanitude, et qui est une charte donc qui détermine des critères de bien-être. Quel est l'intérêt pour des structures d'obtenir ce label, sachant qu'on imagine que l'obtention de ce label va demander, on imagine, des investissements financiers pour moderniser, mettre aux normes des choses.
L'enjeu, quand je disais tout à l'heure que c'était chacun et les familles et l'ensemble des élus, notamment au plus haut niveau de l'État, comme le disait Pascal, qui doit s'en saisir, plus vous allez accompagner de manière intelligente et de manière souple et de manière adaptée des populations, plus vous allez créer de l'emploi, et de l'emploi durable, et de l'emploi qui sera fier de ce qu'il fait et de ce qu'il propose. Donc c'est de l'intérêt général tout ça, c'est vraiment de l'intérêt avec même des impacts médico-économiques positifs. Vous avez des équipes qui fonctionnent mieux parce qu'elles sont mieux accompagnées et qu'elles sont fières de prendre soin qu'elles proposent. Voilà, l'intérêt de la labellisation, c'est aussi de monter en compétence tout le monde et de prouver que vieillir, c'est vivre et que c'est vivre debout. Voilà.
Pascal Jeanvert.
On voit bien à travers tout cela et à travers ce que viennent dire Serge Guérin et Annie de Vivi que ce secteur de l'aide aux personnes âgées, il est éminemment créateur d'emplois. Tous les économistes sont d'accord pour dire que ce sera dans l'avenir le secteur le plus créateur d'emplois. Ça veut donc dire qu'il faut soutenir cela, avoir de vrais échanges dans notre pays pour, comme vous l'avez évoqué, trouver les bons moyens de financer cette aide aux personnes âgées et ces créations d'emplois, et pas faire ce que l'État vient de faire, parce que en décembre dernier, l'État a décidé d'améliorer le nombre de professionnels dans certaines maisons de retraite. C'est bien, il faut continuer à le faire, mais c'est en supprimant dans d'autres. Et ce système, ce principe dit de convergence, il va détruire à peu près 6000 emplois, et nous sommes tous, toute la profession, et vent debout pour faire en sorte que ce décret soit abrogé, et que si on crée bien des emplois dans des maisons de retraite qu'on a besoin, on ne les supprime pas dans d'autres.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion, à suivre évidemment un sujet qui est loin d'être terminé. Merci beaucoup Annie de Vivi, je rappelle, fondatrice et rédactrice en chef du site hvillage.com. Merci à vous Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Je rappelle votre ouvrage « Prendre soin de nos aînés, c'est déjà prendre soin de nous », Carnet Nord 2012. Et puis merci à vous Serge Guérin, sociologue. La guerre des générations aura-t-elle lieu, Calment Lévy, 2017. Donc les références de vos ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de l'émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Juliette Montilly, Cédric Fuentes, Philippine Lebray, Pierre Testard et Isulte Sicard. Réalisation Romain Masson. Prise de son ce soir, Anthony Thomasson et Victoria Asper.